Informer, comprendre, agir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour la planète. C'est l'heure de la chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette chronique environnementale dédiée au bilan climat de l'année écoulée. Et cette semaine, on commence toujours bien. Et je suis toujours accompagné de Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour, bonsoir à tous.
Forcément, les nouvelles ne sont pas bonnes.
Mais non, mais moi je me demande si je ne suis pas un peu masochiste sur les bords quand même. Parce que depuis 20 ans, 25 ans que je traite des questions liées au climat, je crois que je n'ai pas donné une seule bonne nouvelle. Donc on se flagelle avec les résultats. Mais bon, comment faire autrement quand on voit qu'on est si éloigné des objectifs qui nous permettraient de conserver un climat maîtrisable. 2025, troisième année la plus chaude, donc on reste sur un plateau très haut. 11 dernières années ont été les plus chaudes depuis qu'on relève les températures. Il n'a jamais fait aussi chaud depuis 1 million d'années, c'est ce que nous apprend l'étude des glaces. Les carottes de glace, on étudie les petites bulles d'air qu'il y a dans ces carottes qu'on retire de l'Antarctique, par exemple. Et on arrive à reconstituer, grâce à ces petites bulles d'air qui sont coincées dans la glace, la température qu'il faisait à ce moment-là, la composition de l'atmosphère, avec notamment le fameux dioxyde de carbone qui nous embête beaucoup. Le réchauffement, c'est pas le même partout. Il a été très sensible en 2025 sur les pôles, mais aussi en Norvège, sur la mer du Nord, on a eu des canicules et des incendies en Californie, dans le Texas, en Europe également, en Espagne en particulier, les inondations Texas, Indonésie, et tous les secteurs sont touchés. C'est ça le problème. Il y a des pertes économiques mondiales qui s'élèvent à 200 milliards d'euros selon Munich Re, gros organisme de réassurance qui est référence depuis des années et des années. 200 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté le réchauffement climatique.
C'est un sacré coup quand même.
Oui, mais c'est qu'un début, il faut commencer à s'habituer doucement. Et le rythme de tout ça, c'est quand même 0,27 degrés de plus par décennie. Alors c'est énorme, parce qu'on était à plus 0,1, 0,5, et maintenant on est à presque 0,3 degrés. Ça veut dire que la barre des 1,5 degrés qui était prévue dans l'accord de Paris va être pulvérisée dans les années qui viennent, dans 2-3 ans, c'est 30 ans avant ce qu'on avait prévu. Et puis les 2 degrés en 2050, vous vous rendez compte, 0,3 degrés par décennie.
C'est quand même énorme.
Ça veut dire qu'on y est au rythme actuel avant 2050.
Donc les prévisions ne sont pas bonnes pour la météo. Donc on imagine qu'on va dépasser les 50 degrés en été. Est-ce qu'il y aura aussi refroidissements climatiques?
Oui.
Mais est-ce qu'on peut établir les conséquences à attendre d'un réchauffement d'un degré ?
Oui, oui, bien sûr, les scientifiques ont travaillé sur cette question-là. Alors, les conséquences, c'est énorme. On chiffre à 1 milliard de personnes, les habitants de la Terre, qui vont être dans une situation de stress hydrique, donc problème d'accès à l'eau. 14% des espèces seraient menacées avec 1,5 degré de plus. Et puis l'extinction, là c'est dramatique, de 70 à 90% des récifs coralliens qui abritent une grande partie
énorme.
De la diversité, de la biodiversité sur Terre. Et puis il y aurait aussi, il faut bien le noter, une baisse de la production alimentaire dans différentes régions, différents secteurs en fonction des années. Mais 1,5 degré, c'est déjà dramatique, mais 2 degrés, ça l'est évidemment encore plus. Là, on compterait 3 milliards de personnes qui devraient faire face à une pénurie d'eau, 3 milliards de personnes, 1,4 million d'enfants qui seraient en retard de croissance en raison de la malnutrition, essentiellement due au réchauffement climatique. Et ce serait la plupart du temps en Afrique que les enfants seraient frappés.
Dans la pleine Terre, on est au moins 8 milliards d'habitants, donc c'est quand même la moitié de la population, si on peut dire.
Oui, 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 tout à fait. Oui. Alors là, c'est les effets les plus graves, mais tout le monde serait concerné.
Je veux dire,
on aurait des petites inondations, des petites sécheresses par endroits. Mais là, c'est ce qui est globalement prévu. Et c'est quand même très très impressionnant. Hein.
Et les émissions de dioxyde de carbone continuent d'augmenter.
Ben oui, malheureusement, c'est le résultat de l'observation en 2025. Il faudrait limiter ces émissions, on le sait. Mmh. On le sait depuis des années et des années, les scientifiques nous le disent, c'est d'abord là-dessus qu'il faut agir. Ben on n'agit pas. On limite les émissions un petit peu, mais pas assez au mieux. Mais sinon, on peut encore les augmenter, c'est le cas en 2025, plus 1,1%, ça fait, je vais vous donner le chiffre, 42 milliards de tonnes de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère avec l'utilisation essentiellement des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. 42 milliards de tonnes. Pour les États-Unis, les émissions ont augmenté de 1,9%, merci à Donald Trump. Pour l'Europe, plus 0,4%. D'émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Alors la Chine et l'Inde, qui sont les pays les plus peuplés hein, oui. sur Terre, c'est ont sûr. Également augmenté leurs émissions, mais beaucoup moins qu'avant. Ah et bon c'est la seule notion un petit peu encourageante qu'on ait reçue en, oui, en 2025. Donc ils continuent à utiliser des énergies fossiles, mais beaucoup moins. Mmh. Il y a une grande diversité qui est en train de se mettre en place, notamment en Chine, avec le nucléaire, avec les renouvelables. D'accord. Notamment l'hydraulique dans le bassin de l'Himalaya, dans le massif de l'Himalaya, avec des projets absolument considérables de barrages et de production hydroélectrique qui représenteraient 5 à 6 fois l'EPR qu'on est en train de mettre en route en Normandie.
On va revenir sur le nucléaire, mais tout d'abord, en France, on est loin d'être des bons élèves.
Hein. Oui, alors, on a baissé les émissions, moins 1,6%. Ça a l'air bien, non ? C'est moins bien, non, c'est que moins bien ces que dernières années et que l'an dernier en particulier. Il faudrait atteindre 3 fois plus de baisse pour tenter de respecter les accords de Paris lors de la COP qui s'était tenue dans la capitale française. On émet en CO2 363 millions de tonnes.
C'est quand même énorme.
Année, c'est pas mal. La France, elle s'est engagée en fait à une baisse de 50%. D'accord. En 2030, par c'est rapport à 1990, on est à moins de 34%. Donc si on veut vraiment respecter cet accord en 2030, il va falloir accélérer, non pas baisser de 1,6 comme l'an dernier, mais de 6, 7, 8, voire davantage.
C'est quand même un sacré objectif. Donc,
C'est assez inatteignable quand on regarde la réalité des choses.
Et surtout les chiffres et les pourcentages.
Et puis le problème aussi, dans un pays comme la France, c'est que la baisse des émissions est due malheureusement à la baisse d'activité. Donc dans certains secteurs, comme l'industrie manufacturière, on délocalise, donc on émet moins parce qu'on produit moins, donc ça va ensemble. Il y a aussi la métallurgie, le ciment, et puis les deux gros postes, le transport, on a baissé de 1,4% l'an dernier. Il faudrait baisser de 5% pour respecter les engagements. Et enfin, dans le bâtiment, on est à moins 1%. Il faudrait faire 7% de baisse pour respecter là aussi les accords.
Et on va se tourner sur le nucléaire et forcément la région centre n'est pas évitée, donc forcément on a une carte à jouer avec le nucléaire, alors que beaucoup de spécialistes sont pessimistes par rapport aux questions du nucléaire. Il y a aussi des évolutions dans cette énergie.
Bien sûr, le but c'est de produire à l'avenir avec de l'électricité décarbonée. Donc électricité décarbonée, on laisse tomber le charbon, le gaz, le pétrole pour en produire et on se tourne vers les renouvelables et vers le nucléaire. Le bon alliage, c'est nucléaire et renouvelable. En fonction aussi des possibilités locales.
Effectivement.
On peut faire en Afrique, on peut utiliser la puissance phénoménale des fleuves, comme on peut le faire aussi en Asie avec le massif de l'Himalaya. Dans d'autres parties du globe, on peut utiliser davantage le solaire. On peut utiliser davantage l'éolien aussi. Tout ça est en train de se développer. Mmh. Et puis le nucléaire a toute sa place, en tout cas dans la région centre,
notre région,
avec les centrales de Dampierre et Belleville notamment.
Oui, et puis Chinon.
Il y en a d'autres un peu plus loin.
Saint-Laurent aussi.
Oui, Saint-Laurent, on est quand même bien doté grâce à la Loire. Et il ne faut pas oublier que ça crée plusieurs milliers d'emplois dans le secteur, le nucléaire et la production d'électricité décarbonée. Et en plus, il y a des prévisions d'embauche Rien qu'à la centrale de Dampierre, la direction prévoit de 70 à 80 nouveaux emplois dans l'année 2026. Et puis, il y a peut-être aussi des perspectives d'embauche à un autre niveau, parce que les deux centrales, Dampierre et Belleville, pourraient accueillir un ou deux EPR nouvelle génération.
D'accord.
En tout cas, c'est dans l'air, les possibilités sont là, il y a un certain nombre de, d'éléments positif pour permettre cette construction énorme. Les élus de la région, évidemment, dans leur grande majorité, sont favorables à ce projet. Alors, on verra. Ce n'est pas le directeur de la centrale de Dampierre qui va
décider. Non, qui va prendre les décisions.
Mais ça va se faire, évidemment, au niveau national, au niveau de l'État, oui. Mais bon, c'est une perspective qu'on peut envisager.
Et bah c'est magnifique tout ça, si on peut renouveler le nucléaire dans notre région. Et puis forcément, bah, on est dans la bonne période parce que c'est bientôt les arrêts. Donc forcément, il y aura du travail. Et puis le nucléaire a aussi un avenir. Et aussi,
bah c'est pas seulement dans la région, hein, c'est
dans le monde
aussi,
entier, c'est sûr. Voilà.
Tout le monde s'y met ou s'y remet parce que l'abandon du nucléaire qui a été... en partie causé par l'accident de Fukushima, l'effet est en train de se
dissoudre.
Voilà, les émissions ne sont plus les mêmes.
Et puis aussi, y a aussi l'épisode de Tchernobyl qui a quand même laissé des traces pendant des années.
Bien sûr. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport au charbon, hein, franchement. Quand on regarde les conséquences.
On sait qu'en Allemagne aussi, il y a eu, ils ont réactivé la production de charbon.
Bien sûr. Mais bon, c'est la grosse erreur des écologistes des années 70. Au lieu de mettre l'autocollant nucléaire, non merci, au cul de la bagnole, près du pot d'échappement qui est en train de casser le climat, on aurait dû faire autre chose et mettre non au charbon. C'est raté.
Eh bien, Jean-Louis, merci beaucoup en tout cas. Bon,
merci,
c'est vrai
merci.
Que c'était un épisode, on va dire, assez
il faut
complexe, mais bon,
il
faut trop prendre confiance, c'est sûr.
Voilà, il faut le faire, il faut dire, voilà les amis, où on en est, voilà où on se dirige. Et si on veut continuer, on continue, mais il faudrait peut-être faire des efforts.
Et puis c'est aussi à nous de mettre en place des petites actions du quotidien.
Oui.
C'est peut-être peu rien, mais ça peut changer les choses.
Bien sûr, on va continuer à le faire d'ailleurs, à en parler.
Effectivement.
Sur cette antenne, avec plaisir.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis et on se dit à très bientôt.
À bientôt.
Pour un nouveau épisode de la chronique environnementale.